Je suis avec Margaret Bourlibon de Copy Press à Bruxelles. Tout d'abord, je souhaite vous remercier d'avoir pris le temps de s'asseoir avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez décrire ce qui fait Copy Press, quelles publications font partie, quelle est l'organisation?
Copy Press est une société de gestion de droits des éditeurs de la presse quotidienne francophone et germanophone, dont nous regroupons tous les titres de presse quotidienne belge, francophone et germanophone dans cette organisation, qui a comme fonction première de gérer les droits de reprographie via l'organisme Reprobel en Belgique, où nous représentons la presse quotidienne, et aussi qui a le mandat de ses membres pour agir en justice lorsque leurs droits sont violés. Et nous sommes en train également de mettre en place maintenant une plateforme commune de gestion des droits numériques de ces éditeurs.
D'accord, commune pour la Belgique.
Oui.
D'accord.
Et pour l'étranger aussi.
Ah, pour l'étranger aussi.
Oui. Vraiment le one-stop shop pour les droits numériques de la presse.
D'accord. Et ça représente environ combien de titres?
15 titres.
15 titres. D'accord. Alors, on va parler un peu de Google, c'est le sujet du jour. Aux États-Unis, dans d'autres pays également, en général, Google est respecté, même admiré. Ils ont une maxime, do no evil, ne pas faire de mal. Mais je crois que vous ne serez pas d'accord que vous trouvez qu'ils font de mal. Est-ce que, avant de rentrer un peu dans les détails, vous pouvez me dire quel est le cœur de votre point de vue à propos de Google?
Mais chronologiquement, prenons les choses. Google existe depuis quelques années comme moteur de recherche et nous n'avons jamais eu de problème avec Google jusqu'au jour où Google a créé Google News, en se présentant eux-mêmes comme un portail d'information, ce qui était une fonction totalement différente de la fonction de moteur de recherche initial. Donc, lorsque ce service est apparu en Belgique, nous avons fait savoir que pour nous, il y avait violation de nos droits d'auteur, qu'ils n'avaient pas demandé les autorisations pour pouvoir réutiliser les contenus. Mais il faut bien admettre que pour Google, la presse quotidienne francophone de Belgique, ça ne représente probablement pas grand-chose. Et donc, il y a eu vraiment... ils nous ont littéralement ignorés. Ils n'ont pas, accepté les négociations que nous proposions. Et donc, nous avons indiqué que nous irions en justice. Ils n'ont toujours pas réagi et nous sommes allés en justice. Depuis le mois de mars de cette année, la procédure est en cours. Nous avons demandé au juge, dans le cadre d'une saisie description, de désigner un expert pour établir réellement quels étaient les actes posés par Google, techniquement comment se passait la prise de contenu, le stockage, le renvoi, les liens, etc. Donc tout ça a été décrit par l'expert dans un rapport tout à fait circonstancié qui a été déposé début juillet. Et donc, dans le cadre de la loi belge, nous avions à ce moment-là un mois pour agir en cassation. Donc c'était l'été, mais la loi est là, donc nous avons dû quand même intervenir. Nous avons introduit l'action en cassation début août. Nous l'avons fait signifier aux États-Unis par la voie classique de signification de ces requêtes. Et contrairement à ce que Google a prétendu par la suite, ils étaient bel et bien informés dès le 14 août qu'il y avait une audience prévue le 28 août à Bruxelles. Donc,
C'est ça, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient même pas présents
à la première audience
le 29 août.
Non, ils n'étaient pas là. Et donc évidemment, la juge a rendu un jugement par défaut. Et dans ce cas-là, la partie adverse, donc Google, a le droit de s'opposer à ce jugement, ce qu'ils ont fait. Ils ont introduit une requête en opposition dans un délai très très court. Nous avons été convoqués la veille pour le lendemain de nouveau devant le tribunal. Donc le 12 septembre, nous avons de nouveau, nous sommes retrouvés devant la cour. Et c'est là que Google a menti évidemment sur son information, son niveau d'information. Nous avons produit les preuves formel qu'ils avaient effectivement tous les éléments et tout le temps de préparer leur défense. Et donc leur requête sur la levée des astreintes pour non-publication du jugement ont été refusées. Et la juge a acté un calendrier d'échange de conclusions qui doit nous amener à la date du 24 novembre où nous aurons une audience complète de plaidoirie.
Oui, sur le c'est fond. Ça, qui sera au tribunal de première instance.
Oui, la même cour.
D'accord.
C'est la même cour.
D'accord. Et en fait, je ne me suis pas renseigné. Est-ce que Google, ils ont un bureau de représentation ici en Belgique?
En fait, ils ont une société en Belgique, mais qui est une entité commerciale uniquement.
D'accord.
Donc, qui n'a pas de compétences sur le contenu.
D'accord,
des sites, pour... qui est là pour vendre la publicité uniquement.
Entendu. Donc, en fait, pour une procédure judiciaire, il faut bel et bien s'adresser au siège.
Au siège principal. Il n'y avait pas d'autre choix. Ils ont maintenant, évidemment, un cabinet d'avocats qui traite le dossier. Et donc, voilà, il y a un calendrier d'échange de conclusions convenu. Et nous verrons le 24 novembre quels sont les arguments qu'ils vont présenter. Parce que pour l'instant, nous n'en voyons pas.
C'est, selon mes informations, en fait, c'était le 5 septembre que Google était condamné par la Cour d'enlever tout lien vers des articles de presse à la date limite 18 septembre avec une pénalty de 1 million d'euros par jour s'il n'était pas...
Exécuté.
Et également, et c'est une chose qui se fait en Belgique aussi, en France, dans d'autres pays européens, de publier le jugement, ce qu'ils ont refusé de faire aussi jusqu'à, je crois, samedi matin, le 23.
Ce qui est étonnant, c'est la contradiction entre les différentes personnes qui parlent au nom de Google, puisque quand le deuxième jugement est intervenu, le vendredi après-midi, des journalistes m'ont téléphoné d'Amérique et de partout en me disant « Google refuse de publier le jugement ». Ok. Et le lendemain, le jugement a été publié. Donc, on ne sait pas très bien qui parle, à quel titre, est-ce que c'est le bureau en Irlande, le bureau européen, est-ce que c'est le bureau américain, est-ce que c'est l'avocat. Tout ça n'est pas très clair. Il donne vraiment une impression de déstabilisation par rapport à
oui,
ce jugement.
Oui, c'est vrai. Il ne sera pas ma place de spéculer, mais il est possible qu'ils ont sous-estimé l'importance de la procédure en Belgique.
Oui, tout à fait, ça c'est clair. Le fait de ne pas venir à l'audience, c'était clairement sous-estimer l'importance du cas. Et disons que le maelstrom médiatique qui a suivi, nous ne s'y attendait pas à ce point-là. On savait que ça ferait évidemment des remous, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit mondial et que ça suscite autant d'intérêt de la part des autres médias. Et ça ne décroît pas, je veux dire, ça continue. Tous les jours, il y a des articles, des journalistes qui téléphonent, des sites qui nous posent des questions, des juristes. Ça n'arrête pas, c'est vraiment... une affaire d'une ampleur mondiale maintenant.
Mais il y a, je crois qu'il y a quand même des sujets qui doivent être traités, le rôle des médias traditionnels, leur présence sur Internet, la disponibilité de leur contenu, etc. Il peut y avoir des gens qui ont l'impression que la raison de ces litiges, c'est de chercher de l'argent chez Google. Par exemple, ils avaient fait une affaire avec Associated Press, et puis récemment, ils ont un litige qui dure depuis un moment avec Agence France Presse. Comment vous répondrez à une question comme ça?
Je répondrai en deux temps. Je dirais, d'abord, nous voulons le respect du cadre légal européen, donc l'autorisation préalable. Que cette autorisation fasse l'objet d'une rémunération nous paraît tout à fait logique, puisque le service Google News constitue vraiment un produit d'appel pour Google et que c'est une manière pour eux de générer des revenus très 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 importants. Donc je pense que de manière extérieure, je dirais, si Google était raisonnable, il pourrait comprendre que nous avons un intérêt à nous entendre. et à faire un fair deal, un win-win deal, parce qu'effectivement, nos contenus sans un très bon moteur de recherche, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace sur Internet. Mais leur moteur de recherche, si tous les producteurs de contenu leur opposent un refus, n'a plus d'intérêt non plus, ou beaucoup moins en tout cas. Donc, je pense qu'il y a chez eux un travail intellectuel à faire, une réflexion à mener pour comprendre que leur modèle n'est pas acceptable pour les producteurs de contenu qui investissent très lourdement dans ce qui est encore une industrie, en tout cas la presse clairement, dans l'acquisition des droits d'auteur auprès des journalistes, dans la production de qualité, dans énormément de dépenses diverses, et que donc nous ne pouvons pas accepter de perdre le contrôle de nos contenus. Or c'est très exactement ce qui se passe. À partir du moment où vos contenus se retrouvent sur le cache de Google, vous perdez le contrôle de ce contenu. Ils peuvent le diffuser, le distribuer, le commercialiser. Vous n'avez plus le contrôle. C'est vraiment là que se situe le problème.
Le cœur du débat. Si on parle de contenu, moi j'avais en tête dans le Google News, quand je consulte le Google News, le titre, une ou deux phrases et puis le lien. Mais en fait,
photos,
pour vous,
il y a.
Oui, enfin ils sont petits les photos.
Oui, mais. Petite ou grande, il faut l'autorisation de l'ayant droit. C'est comme ça que ça fonctionne.
Et dans le Google Cache, je ne suis pas renseigné, mais est-ce que
vous trouvez l'article intégralement.
Un article intégral.
Ah oui, tout à fait.
D'accord.
C'est vraiment la capture d'écran de l'article.
D'accord.
Parce que nous avons fait le test de retirer certains contenus. Et à ce moment-là, sur Google News, on avait un message d'erreur. Et puis quand on réintroduisait l'article, ça mettait plus de 24 heures à réapparaître sur Google News. Et quand nous retirons des contenus pour les mettre en archive payante, on les retrouve intégralement gratuitement sur le cache. Donc il y a vraiment un préjudice double qui existe. Donc, la perte de contrôle et la perte de revenus.
D'accord. On peut avancer l'argument que dans le fonctionnement même de l'Internet, si quelqu'un publie des informations sur Internet, on implique une permission de permettre aux autres de partager l'information d'où ils se trouvent, ou même de mettre un petit peu pour orienter les gens, etc. Est-ce que vous croyez qu'il n'existe pas quand même un risque pour le public si les moteurs de recherche sont moins efficaces parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la totalité d'informations?
Le but n'est pas qu'ils ne puissent pas accéder à la totalité de l'information. Il faut vraiment renverser le... Nous avons agi en justice sans cessation parce que nous n'avions pas d'interlocuteur pour négocier un accord correct.
D'accord.
C'est vraiment une conséquence de l'attitude de Google.
D'accord.
Mais l'objectif n'est pas que les moteurs de recherche ne donnent pas accès au contenu de presse. Pas du tout. Évidemment que nous souhaitons que les moteurs de recherche donnent accès. Mais ce qui est dangereux, c'est de se retrouver dans un système où Google a quasiment une position de monopole et fixe les règles, change les règles comme ils veulent, et le producteur de contenu n'a rien à dire, il est dépossédé de son contenu, et il doit être très content parce que ça génère éventuellement du trafic, éventuellement. Mais ça n'est pas le fonctionnement de la société de l'information telle qu'elle est voulue en Europe. En Europe, la société de l'information doit être respectueuse des gens, des créateurs, des producteurs, des gens qui fournissent ces contenus de qualité, et le cadre légal européen est conçu dans ce sens-là.
Si j'ai bien compris, quand Google était ordonné de ne pas indexer et fournir des liens vers des publications de CopyPress, ils l'ont bien fait, et en fait au niveau mondial et également dans leur Google News.
Non.
Dans le Google News.
Dans googlenews.be, effectivement, ils ont nettoyé ils ont enlevé tous les articles de presse. Mais si vous tapez googlenews.fr, vous retrouvez des articles de la presse belge.
Ah bon, j'ai fait une recherche ce matin, et dans les Google News, les Google d'actualité, etc., je ne trouvais pas, il est vrai que c'est une recherche rapide, je ne trouvais pas des articles de la Belgique. En revanche, j'avais je me suis rendu compte que sur google.be, je ne trouvais plus les sites.
Non. Par exemple, ça, c'est une mesure de rétorsion.
Moi, je suis un abonné à la Libre Belgique, par exemple,
oui.
Et je voyais que, et c'est un test que j'avais fait, en fait, au moment que j'avais lu la première article dans la Libre à ce sujet-là, qu'ils étaient en tête de liste parmi 200 ou 2 millions, j'oublie site trouvé, oui. Mais ça, à partir de google.be, on ne retrouve plus. Non. Ces sites-là. Mais j'ai fait le test depuis google.fr et google.com et je l'ai trouvé bien en tête de liste à chaque fois.
Tout à fait. Et au niveau des contenus, vous retrouvez des contenus sur google.com et sur google.fr. Nous avons un huissier qui tous les jours constate les infractions. Par exemple, au niveau de la publication du jugement, ils l'ont publié samedi, dimanche, ils l'ont publié lundi, puis mardi, ça n'y était pas.
Dis donc.
Alors que le jugement disait 5 jours d'affilée. Et puis, c'est revenu. Et puis, non. On ne sait pas très bien comment tout ça fonctionne chez eux. Si c'est le caractère automatique qui crée des erreurs, ou bien si c'est une volonté réelle de publier ou ne pas publier, etc. Mais il y a surtout, à mon avis, une erreur juridique dans leur chef de croire qu'il suffit de nettoyer google.be ou googlenews.be. À partir du moment où, à partir de la Belgique, on a accès à tout l'Internet, que ce soit .fr, .com, tout ce qu'on veut, l'infraction peut être constatée en Belgique, et donc il est illusoire de se dire le juge ne va pas être compétent parce que le contenu se trouve sur google.com ou sur google.fr ou autre chose.
Google pourrait avancer l'argument que la juridiction des cours en Belgique s'applique uniquement à leur domaine.be.
Et non, non, puisque la juridiction est compétente pour les infractions qui se constatent sur son territoire. Et donc, à partir d'un ordinateur en Belgique, on peut accéder à google.fr, à google.com, à google.norvège, tout ce qu'on veut. Donc, le juge n'est pas limité dans son champ de compétences au seul site.be. C'est une erreur de plus de la part de Google qui méconnaît vraiment fortement le cadre légal européen.
J'avais constaté que le premier jour que le jugement était publié sur google.be, que le texte était dans un cadre avec ascenseur et qu'il ne s'imprimait pas correctement. Et que ça a été amélioré, disons, le lendemain ou deux jours après. Il est vrai que je me connecte à Google depuis de nombreuses années et c'est effectivement la première fois que je vois un jugement publié sur la une de leur site.
À notre connaissance, les seules condamnations contre Google sur du droit d'auteur, c'était aux États-Unis par rapport à des photos pornographiques parce que c'était un site payant et le logiciel, je ne sais pas comment on appelle le système Google, avait réussi à passer à travers le filtre payant et avait capturé les photographies pornographiques.
Oui, ça me dit quelque chose. Il me semble que il y a
condamnés.
Eu beaucoup de nombreuses discussions sur la taille des images affichées par Google.
Oui, parce que prétendre que si ça la taille d'un ongle, alors ça ne vaut pas comme une photo. Quand vous êtes le photographe, ce n'est pas un langage qui est facilement acceptable.
D'accord. Tout à l'heure, là, vous avez parlé de la mesure de rétorsion qui a pris Google envers les sites membres de CopyPress. Est-ce que le trafic vers ces sites a changé en conséquence de leur disparition dans google.be?
Je vais vous dire que l'hypermédiatisation de l'affaire a peut-être compensé une perte de trafic venant de Google et un trafic direct vers ces sites, parce que on n'a pas pour l'instant une incidence catastrophique.
D'accord, il n'y a pas les webmasters des publications qui appellent en disant...
Si, les webmasters sont pas contents parce que ils sont incentivés au clic, donc évidemment, pour eux, tout qui ramène vers leur site, c'est important. Mais on a fait une information aux équipes en expliquant que c'était un combat de principe. Probablement de longue haleine, mais que nous n'étions pas seuls Et c'est ce qui va maintenant, dans les prochains jours et les prochaines semaines, apparaître, c'est que les autres producteurs de contenu, radio, TV, aussi bien que les agences de presse ou les magazines ou d'autres, vont se joindre à l'action avec nous, et donc et venant d'autres pays. Donc, à ce moment-là, c'est clair que on est dans un bras de fer, hein, on est dans un bras de fer avec Google. Tant que ça reste les journaux quotidiens belges, ils peuvent espérer nous faire nous casser. Mmh. À partir du moment où il y aurait la presse française, la presse allemande, la presse hollandaise, les télévisions, etc., les journalistes, les auteurs eux-mêmes, les photographes, etc., là, ça risque de poser un vrai débat de fond. Et l'obligation pour eux de remettre en cause leur modèle économique.
Justement, le lendemain de la condamnation de Google, au mi-septembre, le World Association of Newspapers a annoncé une nouvelle initiative technique mm-hmm. qui s'appelle Automated Access Content Protocol, ou ACAP, mm-hmm. Qui va faciliter la spiderisation, si c'est un mot, spidering des sites, des médias. Est-ce que pour vous, ça va dans le même sens?
Tout à fait. La réflexion que nous avons menée, elle a commencé au sein de la One l'année dernière, parce que avant de lancer googlenews.be, ils avaient déjà lancé googlenews.fr, ils avaient déjà commencé dans d'autres pays, donc on savait que l'agence France Presse avait déjà entamé une action, donc on suivait déjà le dossier, et la One s'est vraiment saisie de ce dossier. Gavin O'Reilly, le président, a vraiment fait une présentation en novembre dernier tout à fait remarquable, et il a essayé vraiment de faire comprendre à tous les éditeurs du monde entier que c'était un combat vraiment très très important pour tout notre secteur, que l'objectif n'était pas de casser Google ou de les tuer, mais de leur proposer un partenariat équitable, un fair deal. Et donc, comme Google n'arrêtait pas de dire qu'il y avait des problèmes techniques, que ça ne marcherait pas, que c'était difficile de demander des autorisations, etc., la One a mandaté Rightscom, qui est une société de consultance et qui a des publications sur Internet aussi, pour étudier cette fameuse plateforme d'autorisation préalable pour les moteurs de recherche, mais pour d'autres utilisateurs sur Internet. Le problème, c'est que c'est un travail compliqué et lourd, et que ça va prendre du temps à être développé, testé, etc. Et puis, même si toutes ces étapes sont réussies, on ne sait pas aujourd'hui ce que ça coûtera aux éditeurs d'implémenter cette technologie. Est-ce que ce sera raisonnable par rapport aux recettes que ça peut générer, etc. Tout ça est encore un peu mystérieux pour le moment. Les coûts de développement aujourd'hui se chiffrent en dizaines de milliers d'euros, hein. Voire centaines de milliers d'euros aussi, si on veut vraiment faire un test en vraie grandeur. Donc, il faut quand même qu'à un moment donné, il y ait un business model équilibré et raisonnable. Donc, nous soutenons tout à fait cette démarche, mais elle va prendre du temps, et nous ne voulions pas, en n'agissant pas, donner à Google un sentiment de fait accompli.
D'accord.
Parce que leur théorie a toujours été de dire, on prend, si vous n'êtes pas d'accord, vous devez nous contacter, et alors on retire vos contenus. Mais rentrer dans cette logique-là, c'est admettre que c'est normal ce qu'ils font. Donc nous avons dit non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vous qui devez venir nous demander des autorisations et éventuellement nous rémunérer ou trouver un accord commercial qui peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être un partage de recettes publicitaires, ça peut être un joint venture dans une entité commune, tout est possible. Mais c'est dans ce sens-là que ça doit marcher. Et comme ils n'ont pas répondu, l'action juridique était impérative, était nécessaire pour dire nous avons clairement indiqué que nous n'étions pas d'accord. Et l'avantage, c'est que si ce jugement est confirmé fin novembre, ça devient une jurisprudence européenne.
Hein. En plus.
Ah oui, évidemment, puisque tout le droit d'auteur est régulé au niveau européen dans le cadre de directives qui s'appliquent aux 25 pays. Donc, à ce moment-là, les juges de tous les autres pays auront cette référence, cette jurisprudence comme référence.
Est-ce que vous croyez que vous serez systématiquement devant la cour, forcément devant la cour, ou est-ce qu'il y a encore temps pour Google de s'asseoir en table avec vous et négocier?
Bien sûr, il y a temps. Oui. Mais nous n'avons rien entendu jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas s'ils réfléchissent ou s'ils sont bloqués ou... Rien n'est clair pour le moment.
Ben, on peut dire, par exemple, si je fais l'avocat du diable, je suis chez Google, je peux dire, ben, en fait, il existe depuis l'aube de l'Internet tel que nous le connaissons dans les années 90, des systèmes pour des moteurs de recherche, pour les araignées, le fameux robot .txt qu'on peut mettre dans un site, ou des métatags qui peuvent être mis au niveau de chaque page. De plus, Google, par exemple, ils ont une procédure où, par simple demande, une organisation médiatique peut être délistée rapidement. Donc, en fait, ils sont quand même simples à mettre en œuvre ces méthodes, mais pour vous, l'idée, c'est que ce n'est pas une façon de
travailler. Ce n'est pas acceptable, non. Nous ne pouvons pas choisir entre être dépossédés de nos contenus ou être effacés. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas Google qui peut faire la loi sur nos contenus. Ce n'est pas acceptable. Et toutes les normes ou les techniques qu'ils utilisent, aussi brillantes soient-elles, sont des techniques qui leur appartiennent, mais qui n'ont aucune valeur juridique. Aucune. Ce n'est absolument pas standardisé, ce n'est pas reconnu légalement, il n'y a aucune loi qui dit « si vous ne vous opposez pas, c'est tout à fait normal qu'on prenne ». Aucune loi qui dit ça.
Il n'y a pas de jurisprudence sur le opt-out de
non.
part
Non, le opt-out qu'ils ont institué, c'est leur stratégie à eux, mais qui n'est basée sur aucune base légale.
Enfin, les robots .txt, les métatags, ils sont communs à tous les moteurs de recherche.
Ce n'est pas une raison pour dire qu'ils constituent une base légale. Je veux dire, c'est quelque chose de technologiquement éprouvé et qui marcherait bien. Et je vous rappelle ce que je vous ai dit en début d'entretien, tant qu'ils se sont comportés en moteur de recherche, nous n'avons jamais exprimé le moindre reproche ou la moindre difficulté. C'est le lancement des services Google News, où ils se présentent en portail d'information qui a déclenché nos actions, les actions de la One et celles de l'AFP. Ce n'est pas le moteur de recherche que nous remettons en cause. C'est un outil formidable, on est tout à fait d'accord. Maintenant, je dirais, en tant que citoyenne, sans même parler de problématiques de droits d'auteur, de mes membres, etc., en tant que simple citoyenne, j'ai quand même une difficulté quand je me retrouve face à un monopole, un quasi-monopole comme celui-là, parce que l'influence que ça peut avoir en termes d'indexation de l'information ou de non-indexation de l'information, ce n'est pas neutre. Politiquement, mondialement, ça n'est franchement pas neutre. Je veux dire, l'attitude de Google et d'autres moteurs de recherche par rapport au gouvernement chinois qui accepte de censurer ou qui prennent qui vendent des mots-clés ou des pages de publicité au Front National, où est l'éthique dans tout ça? Je veux dire, moi, je ne suis pas nécessairement désireuse que Google fasse la loi mondialement sur Internet. Ça ne va pas. Il faut des alternatives, il faut qu'il y ait une concurrence loyale, il faut qu'il y ait un respect des contenus et des cadres légaux des différentes parties du monde. Google ne peut pas s'autoproclamer empereur d'Internet, c'est pas possible. Il y a des conséquences politiques majeures derrière tout ça.
Est-ce que pour vous, c'est Google contre les éditeurs, ou est-ce que pour vous, avec Google, il y a vraiment une menace au sens large de la disponibilité de l'information, de la classification de l'information?
Tout à fait. Ça, c'est clair. La mainmise de Google sur les recherches sur Internet a des conséquences politiques majeures. De nombreux avocats maintenant nous ont contactés en disant, effectivement, si demain Google décide, plus aucune publication de gauche n'apparaît. Ils peuvent le faire. ou plus aucune publication de telle langue, ou plus... Ils peuvent décider des règles et de la manière de hiérarchiser l'information, de la faire apparaître en premier plan ou en dernier plan. Ils sont maîtres de ça. Et ça, c'est quand même dangereux par rapport à la liberté d'information, à l'accès à l'information. Ils se présentent comme vraiment Robin des Bois qui offre tout gratuitement à la grande masse de la population. Ils sont formidables, etc. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas une ONG, hein. C'est pas une, ils ne sont pas là pour faire, c'est pas une fondation, hein. Ils font des profits gigantesques. Ils sont cotés en bourse. Ils ont perdu beaucoup d'argent maintenant déjà avec cette affaire. Leur cotation a quand même déjà bien chuté. Ce ne sont pas des philanthropes. Ce sont des businessmen. Et donc, en priori, avec des businessmen, on devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais évidemment, comme leur modèle a fonctionné comme ça pendant un certain temps, il y a une difficulté pour eux à le remettre en cause. Ça, c'est clair. Mais c'est pour ça qu'on a besoin maintenant de créer une solidarité, une cohérence entre les producteurs de contenu, pas seulement de presse écrite, mais de radio, de télévision, de magazines et autres, pour qu'il y ait un front commun, quoi.
Madame Margaret Bourribon, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.